RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Lyon, à mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis, salut à tous.
Et notre correspondant à Lyon, Edouard G. Salut Edouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour à tous.
Salut Loulou.
Coach Edouard, on a retrouvé le général. Alors on va lui consacrer un épisode spécial. 9 buts, 2 passes décisives sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Comment le Lyonnais Alexandre Lacazette est-il relancé? Quelle est la part de responsabilité de Pierre Sage? Et l'OL dépend-il de son efficacité pour remonter en Ligue 1 ou ne pas descendre en Ligue 2? Vous écoutez le podcast After Lyon, c'est parti! Alors c'est vrai que le sursaut est brutal, il incarne à lui seul celui de l'OL. Lacazette avait inscrit 3 buts sur les 14 premières journées de Ligue 1, de début août au 6 décembre dernier. 8 buts sur les 7 dernières journées. Il a retrouvé ses standards élevés de la saison dernière. Il avait fini à 27 buts. Il en est à 11 après 18 matchs de Ligue 1. Pourquoi est-il à nouveau efficace? On va en débattre ensemble. Coach, toi, dans ce que tu vois, dans ses mouvements, est-ce que tu vois un nouveau Lacazette? Comment t'expliques ce réveil-là?
Un nouveau Lacazette. On voit à nouveau Lacazette.
À nouveau Lacazette, tu as raison.
Mais c'est difficile de lui dire pourquoi. Il est revenu, regardons un petit peu pourquoi il est parti. Ben, je crois que dès l'arrivée du nouveau coach Grosso, il a fait partie de ceux qui ont pris d'entrée un coup de pied au cul, je crois.
C'est vrai, Edouard.
Donc,
hein.
Et donc là, ben là il revient d'une situation qui me paraissait quand même un peu sévère.
Il a raison, coach. Hein, pour comprendre pourquoi il va mieux, il faut comprendre comment il a pu aller si mal, notamment sous Laurent Blanc, qui lui a sauté au bout de 4 journées de Ligue 1. Puis, Fabio Grosso, c'est un homme qui ne l'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions.
Oui, alors il y a ça, et puis je remonterai un peu plus en arrière. C'est surtout le début de saison où il prend un carton rouge et il va manquer 3 matchs de suite. Hein. Donc, et là, dans ce fameux match du 19 août face à Montpellier à la maison, où Lyon en prend 4 à 1. Et donc derrière, mais il a tout le mois d'août où il ne joue pas, plus la trêve internationale. Donc ça fait un mois où il s'entraîne. Mais sans compétition, sans rien, plus l'OL est en pente raide sur la descente, à ce moment-là, ça lui prend un petit peu la tête. Donc il y a toute cette partie à reconstruire. L'OL va pas bien, Lacazette ne va pas bien. Alors, qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est parce que l'un va pas bien que l'autre ne va pas bien? Mais en tout cas, il y a toute cette période-là. Et puis après, petit à petit, ça ira beaucoup mieux, notamment à partir de ce mois de décembre. Et cette renaissance de ce jour, de la renaissance de l'OL, encore une fois, qui de l'œuf ou de la poule, mais ce fameux triplé face à Toulouse le 10 décembre.
Question de coach, d'entraîneur également. Fin novembre arrive Pierre Sage. 8 ou 9 jours plus tard, il met un triplé contre Toulouse avec son de Lacazette. Sage, justement, a parlé de son buteur aujourd'hui en conférence de presse. On lui a posé la question, comment explique-t-il ce sursaut? Est-ce qu'il le doit au coach, au collectif? Sa réponse.
Je pense qu'il se l'est donné tout seul. Parce que le vrai virage pour lui, c'est, je pense, ce match contre Toulouse où il marque un triplé. Et derrière, il a enchaîné quasiment tous les matchs. Donc c'est très bien pour lui, c'est très bien pour nous. Et c'est bien aussi qu'il marque dans des conditions complètement différentes à chaque fois. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on travaille ensemble où il marque en recevant une passe de déséquilibre qui vient de derrière lui. Il avait beaucoup marqué sur des centres ou sur des coups de pied arrêtés. Et donc ça prouve que c'est un joueur qui est capable d'être décisif dans beaucoup de situations de jeu. Et en général, ça caractérise assez bien le talent. Non, c'est simplement tu joues, t'es un bon joueur, on a éclairci certaines choses par rapport à sa situation, mais voilà, c'est une discussion d'homme avant tout. C'était même pas une discussion d'entraîneur à entraîner, c'était clarifier un point avec lui. Et après, c'est un bon joueur, c'est un joueur expérimenté. Il avait, je pense, pas besoin de cette discussion-là pour se remettre sur le cheval et galoper.
Voilà pour le passage. Vas-y, coach.
Je me mets un petit peu à sa place. Il y a beaucoup de fausse modestie. Parce que nous dire que c'est à la suite aussi d'une discussion ou dans cette discussion entraîneur-joueur, ben le joueur te dit avec quel profil d'organisation il est le mieux utilisé, avec quel partenaire il peut s'entendre le mieux et tout. Ben ça fait partie du boulot de quoi c'est ce qu'a dû faire Sage. Mais bon, il veut pas nous le dire. Il faut se mettre à sa place. Il va pas se dire, après avoir discuté avec Lacazette, ben, là, on a trouver, lui et moi, les meilleures solutions. Mais enfin, oui, c'est une évidence.
Tu étais comme ça avec Ojossi, toi. Tu étais un humble.
Ouais, mais
tu
mettais
en avant le joueur et moins de discours parfois.
Non, arrête de dire des conneries. ça m'arrive à moi aussi d'en dire. J'ai toujours détesté qu'un entraîneur, quand il parlait après un match ou avant un match, il parlait avec des il.
C'est
il,
pas moi, c'est les joueurs.
On, nous. Oui, donc, quand je vois ces entraîneurs là, à la fin d'une victoire, il faut féliciter les joueurs. Mais non, toi, tu es pour rien, tu es contre. Toi, tu sers uniquement à te faire virer quand il n'y a pas de bons résultats. Eh bien, excuse-moi, je ne voyais pas le métier d'entraîneur comme ça, Nicolas.
Et à l'inverse, c'est les coachs qui disent, après une défaite, je prends toute la responsabilité, bien sûr. C'est que de ma faute.
C'est que de ma faute. Moi, là. Là, alors peut-être vraiment je comprends pas pourquoi mon président il me vire pas.
Vas-y Edouard, apprends à quel notre invité, vas-y.
Alors peut-être à ce moment-là, alors je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il y a une partie de ça dans cette discussion, parce qu'on est au mois de décembre, c'est le début du mercato, on commence à en parler, etc., etc. Vous savez qu'on en a évoqué peut-être un départ de Lacazette parce qu'il avait des touches avec le Los Angeles Galaxy. Est-ce que je pars au mois de décembre, tout en sachant que le championnat aux États-Unis reprend en avril, plus le fait que son équipe, l'OL, était dans la NAS, hein, 11 fois dernier sur les 16 premières journées. Hein, faut quand même bien.
Oui, Edouard, certains disaient aussi qu'il était un peu devenu néfaste au vestiaire.
Voilà, exactement,
à la tête
tout
d'un
ça.
Clan, voilà.
Et du coup, je pense que dans les mots qui ont été utilisés, c'est on compte sur toi, on a confiance en toi, on veut construire quelque chose autour de toi. Et ça, je pense que c'est aussi, ça a dû faire aussi partie alors, de la conversation, alors consciente, inconsciente, mais en tout cas, il y a eu de ça, on a confiance en toi, et puis mine de rien, bah, derrière, il plante. Et mine de rien, il a pour l'instant marqué 11 des 22 buts de l'OL.
50% des buts, c'est fou.
Et il a marqué, ses buts ont rapporté 13 des 22 points de l'OL. C'est monstrueux.
C'est monstrueux, ça peut être un problème, on en parle dans un instant. Tiens, pour entrer dans le conscient ou l'inconscient d'Alexandre Lacazette, on l'a convoqué dans l'after OL avec coach Edouard, un pote à lui, un très proche, qui a été formé avec lui à Lyon, Enzo Real. Salut Enzo.
Salut, bonjour à tous.
Heureux de t'accueillir dans l'after Can, ancien
Enzo
de...
Enzo Real, ça c'est un sacré nom.
Ça c'est un nom qui claque. Hein.
Pour justement parler de football.
Oh. Il n'y a pas de Bernard Barça ou de Franck Barça, mais il y a Enzo Real avec nous. Enzo, ancien de Lyon, je le disais,
non,
Boulogne.
Mais, c'est vrai, je vous rejoins. Après on sait comment fonctionnent les attaquants, ils marchent beaucoup à la confiance. Et avec l'expérience qu'il a en revenant à l'OL, je pense qu'il a fait le choix de revenir dans un club qu'il connaît bien. Et grosso, je pense qu'il l'a quand même mal utilisé parce que j'ai l'impression qu'il s'est plus méfié de lui plutôt que s'appuyer sur lui. Et en faisant revenir Tolisso, en faisant revenir Alex, donc Lacazette, je pense que c'était une erreur de sa part parce que voilà, c'est les joueurs avec le plus d'expérience. Donc si à un moment donné tu t'appuies pas sur ta colonne vertébrale et tu fragilises un peu l'équipe, et ben ça crée ce qui s'est passé en première partie de saison. Ça veut dire un 11 qui n'était pas vraiment dessiné et de l'instabilité aussi dans le jeu. Et je pense que l'arrivée de Matic, elle va faire beaucoup de bien dans l'équilibre de l'équipe et dans la construction du jeu lyonnais. On voit vraiment qu'un gars d'expérience plus bas, parce qu'Alex, il joue vraiment haut et il dépend un peu des appels.
Oui,
il dépend un peu de la maîtrise technique de son équipe pour se créer des occasions. Qui n'était pas forcément le cas en début de saison. Quoi.
Enzo, est-ce qu'il a douté vraiment profondément à un moment, Alex Lacazette, il y a encore 3 mois, est-ce qu'il a douté de son avenir aussi à Lyon?
Je pense qu'il n'a a pas forcément douté, mais il s'est peut-être frustré à un moment donné, se dire que voilà, on doute de lui, alors que voilà, l'année dernière, il les a tenus à lui tout seul, parce que sans lui l'année dernière, je pense que le club il serait peut-être descendu, parce qu'il a fait une très grosse saison avec une équipe qui était quand même pauvre, hein, parce que on ne le dit pas assez, mais l'année dernière, l'OL avait une équipe assez fébrile. Comme cette année-là, il y a eu un peu de renforts qui sont arrivés, donc il va pouvoir être encore meilleur, je pense. Il pourra combiner avec les Benrahma et tous ceux qu'ils ont recrutés. Et voilà, quand tu es attaquant, tu dépends un peu des autres, malheureusement.
Bien sûr.
Et c'est le cas pour Alex aussi. Malgré que des fois, il se crée des occasions tout seul, et heureusement. Mais bien sûr que l'OL aura besoin d'Alex en grande forme pour se maintenir, et même viser plus haut, j'ai envie de dire.
Vous savez qui est le deuxième meilleur buteur de l'OL derrière Lacazette en Ligue 1?
Un joueur qui a dû mettre 3 ou 4 buts, non ?
Jake O'Brien, effectivement, un défenseur central à Lyon. 3 buts, exactement, Edouard, devant notamment Cacré qui a 2 buts. 50% des derniers buts de l'OL, tu l'as dit, mon cher Edouard. Enzo nous dit que ça passera aussi par lui, la remontée dans le classement et le maintien.
Cherki,
aussi.
Combien de buts ? 2 ?
Cherki, je crois qu'il est.
En Ligue 1, 0, non ?
0, je crois.
Il pas marqué, c'est en coupe qu'il a marqué.
Ouais, alors j'ai un doute.
Le,
hein, je vais...
le dernier match, c'est
non, son. C'est la casette. Ah oui, en Coupe de France.
Ah
oui,
ah,
coupe.
Tu parles de coupe, oui. En Ligue 1, je parlais en Ligue 1.
Ouais, en Ligue 1, non, mais 0, je parlais moi aussi en Ligue 1. En Ligue 1, 0.
Ouais.
Oula.
Bon, coach, c'est intéressant ce que soulève également Enzo. Évidemment, il dépend de l'animation et des gens autour de lui. C'est aussi grâce à ce mercato d'hiver que la casette est redevenue la casette.
Ben oui, mais c'est sûr que ce poste-là, bon, tous les postes, c'est difficile de jouer sans avoir de bons coéquipiers, mais surtout le sien. C'est justement, il est mal utilisé. Il est dans une. Tu vois par exemple à l'OM l'utilisation d'Aubameyang. Quand il est avec un copain à côté, ben tu lui mets 8 sur 10. Quand il est tout seul dans l'axe ou sur l'aile gauche, tu lui mets 2 sur 10. Et c'est pourtant le même joueur au même âge. Donc ben, la casette, c'est pareil. Il y a des joueurs avec qui tu t'entends mieux. Et ça fait partie du boulot du coach. Il y a des organisations que la casette préfère. C'est à lui, avec son expérience et la responsabilité qu'il a du brassard de capitaine, d'en discuter avec le coach, et c'est ce qui a dû être fait, je ne me fais pas de soucis là-dessus.
Edouard, il est mieux entouré également, toi qui le vois régulièrement à Lyon, juste son visage a changé aussi, tu vois un homme beaucoup plus épanoui désormais ?
Oui, alors il a toujours été, en fait il y a eu un, Enzo je pense que tu ne vas pas me dire l'inverse, le contraire, ouais. Hein, il y a toujours eu un débat, ce fameux gang des Lyonnais qui n'accueillerait pas les nouveaux joueurs. La preuve qu'il les accueille bien, quand on voit le mercato réussi et le mariage qui se fait bien actuellement. Et je pense que ça a dû un petit peu l'atteindre. Et je peux vous dire que c'était vraiment pas le cas. Hein. Donc il accueille en tant que capitaine, il accueille les gens et il est ouvert. Alors c'est vrai qu'il a une attitude parfois un petit peu dans une expression du visage.
C'est pas le plus expansif, c'est sûr.
Non, ouais. Voilà. Alors ça peut après, inclure un certain nombre de choses.
C'est jamais facile d'arriver dans un vestiaire. Le respect il se fait en étant bon sur le terrain. C'est là que tu gagnes, on va dire, de la légitimité et c'est sûr que quand tu réussis pas dans un club et ben tu trouves des excuses et tu dis ben il y avait des clans on m'a pas intégré alors que l'intégration elle se fait sur le terrain tu peux t'entendre pas forcément avec des joueurs en étant bon sur le terrain ben ça facilite les liens et voilà en plus c'est un joueur très intelligent je pense que il va pas faire la gueule à un mec qui peut lui mettre des passes décisives sur le terrain, quoi.
Toi qui le connais dans le privé, Enzo, Alexandre Lacazette, c'est vrai que nous on voit un homme sympathique, hein, mais c'est pas le plus expressif non plus, même après un match réussi.
Il est assez calme.
Il est très calme, très posé. Il est comme ça dans la vie aussi, c'est le même ?
Oui, il est très calme, il est très posé. C'est un Guadeloupéen, quoi. ouais, il est comme ça dans la vie aussi. Voilà, on a du mal à le cerner. Ben, ça lui a causé des problèmes quand on était en jeune en équipe de France. L'entraîneur, il avait l'impression qu'il s'en tapait un petit peu, alors que pas du tout. C'était sa façon d'être et ça lui a posé des problèmes hein, parce que il avait été mis à l'écart plusieurs fois. Ben, d'ailleurs avec Deschamps,
oui.
Ça l'a jamais fait parce que voilà, peut-être c'était pareil quoi.
C'est un homme que beaucoup d'entraîneurs ont du mal à cerner peut-être, hein, ou qui prennent sa discrétion pour de l'arrogance. Hein. L'histoire de la casette avec l'équipe de France, elle est presque ratée. Il a quelques sélections, mais à une époque où il marquait Arsenal, on le revoyait plus.
Pas presque, elle est ratée.
On n'a jamais su pourquoi réellement.
Ben oui.
Problème relationnel avec Deschamps, ben oui. Mais c'est très dur à dire. Après, il a un caractère, Enzo Lacazette aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se regarder ses pompes.
Il a sa personnalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le met capitaine.
Oui. Oui, Enzo ?
Oui, ça peut être un très grand boudeur, mais après il a mûri. Mais c'est sûr qu'il est dur à approcher. On a l'impression qu'il a ce petit air un peu de frimeur, alors que pas du tout. C'est plutôt de la discrétion. Et voilà, il est comme ça en fait. Il a réussi comme ça et il reste comme il est en fait. Sauf que des fois ça peut plaire à certains. Et non à d'autres. Il faut bien le connaître pour connaître le personnage, quoi.
Bon, même si on essaie de trouver tous les détails possibles pour que notre débat soit intéressant pour les passionnés de football, ce qu'il faut regarder et constater une fois de plus, c'est qu'il y a des périodes où il y a tout qui va et il y a des périodes où il n'y a rien qui va. Quand je vois ce que fait Montpellier contre Lyon et Lyon contre Montpellier. Mais la construction de la victoire contre Montpellier, elle s'est faite 3 jours avant dans ce match contre Lille. Et pourtant, il n'y a pas eu, on ne change pas l'équipe qui gagne, machin, etc. Il y a eu beaucoup de choses de changer. Et quand tu vois qu'après Montpellier, qui ouvre le score, dans une autre période de Lyon, c'était terminé. Jamais tu pouvais égaliser et gagner ce match-là 2-1. Mais en plus que tu égalises et que tu le gagnes 2-1, tu égalises sur un but de Lacazette. Je ne sais pas s'il faut le mettre à Lacazette ou s'il faut le mettre à Lecomte, qui, malgré que ce soit un très bon gardien sur ce but-là, ben, ça a quand même facilité le but de Lacazette. Et le but de la victoire, pourquoi pas, Cacré de 20 mètres du gauche. Eh ben, tout va bien, les amis. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Ça a dû être travaillé à l'entraînement, ça, la veille. Hein.
T'as raison, c'est ce que... Oui, bah, t'as raison. Bah, après, c'est aussi le travail de Pierre Sage, mais il ne le reconnaîtra pas aussi. Hein. 8 victoires en 12 matchs, c'est aussi son bilan. Voilà pour cette épisode consacrée à Alexandre Lacazette. Enzo, merci. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Hein, tu nous as fait une très bonne analyse de la personnalité et également du retour en forme de ton pote Alexandre Lacazette. Bon, il a 11 buts. On ne serait pas surpris qu'il finisse à 20 buts cette saison. Hein. Tout est possible pour lui.
Tout est possible, mais ce qu'il faut terminer aussi, c'est que la situation de Lyon maintenant, qui est devenue sympa pour les joueurs et pour le public, ça ne va pas être un cadeau pour tous les adversaires qu'il va y avoir de les empêcher de gagner la Coupe de France. Ça ne va pas être un cadeau. Paris Saint-Germain ou pas Paris Saint-Germain, Nice ou pas Nice, Rennes ou pas Rennes, Strasbourg ou pas Strasbourg, ça ne va pas être un cadeau du tout.
Ouais, Lyon est quand même 3e sur les 7 derniers matchs. Hein. 15 points pris sur 21, c'est quand même... Il y a Paris qui en a pris 17 et Rennes qui en a pris 16. Voilà, donc sur les 7 derniers matchs. Et j'imagine qu'Enzo doit être un peu plus souriant désormais, que son Noël soit dans ses meilleures positions qu'à une époque.
Enzo, qui est d'ailleurs, je précise, toujours footballeur. Hein. Tu joues à Gol FC, hein. C'est un club...
Exactement, ouais. Non, mais après, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'automatisme, j'ai l'impression, sur le terrain, même si tout n'est pas parfait. Mais le problème, c'est qu'avec Grosso, il essayait de changer toutes les 2 minutes, il créait un peu d'instabilité, il voulait se prouver des choses, il voulait être tout seul. Et je pense que ça ne marche pas, il faut s'appuyer sur une colonne et après, voilà, les jeunes, ils s'intègrent.
Ah, au niveau des joueurs expérimentés, tu as plusieurs colonnes. Hein.
Bien sûr. Tolisso à Matic, à Lacazette.
Lovren, Matic, Tolisso, Lacazette, Anthony Lopez. Est-ce qu'il y a quand même 2-3 jeunes là?
T'as Cherki, coach. T'as Cherki.
Ah, ben j'avais oublié.
L'espoir triomphant.
Pour les jeunes recrues, qu'ils ont les joueurs prometteurs qui sont arrivés, je pense que c'est mieux si les joueurs clés sont au niveau. Quoi.
Pour Gift Orban, pour Malik Fofana. Lyon-Nice, hein, important vendredi. Ce sera intéressant de voir si le réveil lyonnais se confirme face à un candidat à l'Europe.
Pas facile de battre Nice, mais pas facile en ce moment de rencontrer Lyon.
Voilà.
Et puis Lyon qui va jouer un certain nombre d'adversaires directs d'ici la mi-mars. On a l'impression que si Lyon arrive à bien gérer l'enchaînement, donc notamment de 3 équipes à Lorient, à Metz et puis à Toulouse d'ici le 17 mars. En plus, donc il y a Nice et Lens. S'il y a des bons matchs face notamment à ces adversaires directs, à la mi-mars, l'OL pourra peut-être avoir une vision un peu meilleure sur la fin de saison. Et vu qu'entre-temps, il y aura eu le quart de finale face à Strasbourg à la maison fin février, dans un monde idéal, Lyon peut s'être un petit peu dégagé les bronches, on va dire, pour le maintien mi-mars, avec potentiellement une demi-finale à jouer au mois d'avril. Pourquoi pas, ça peut changer la fin de saison et on pourrait regarder la saison différemment.
Et oui,
c'est vraiment incroyable.
Et le podium n'est qu'à 16 points finalement.
Ouais, non, voilà, faut peut-être pas non plus rêver.
Merci Enzo, c'était un plaisir. Enzo Real.
Merci Enzo.
Salut Enzo.
Le podcast After Lyon. Merci mon cher Edouard. Merci coach également.
Salut,
rendez-vous
salut
la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour débriefer notamment ce Lyon-Nice. Bye bye.
RMC After Lyon.